les enfants lui ont jeté des pierres. Le deuxième mort, que l'on a retiré des décombres carbonisés d'un atelier de production de méthane du secteur pauvre de la ville, tout près de mon hôtel, avait été défiguré, ratatiné par la chaleur, ses bras et ses jambes repliés dans la posture du boxeur propre, depuis des temps immémoriaux, à ce genre d'accident. J'avais jeûné ce jour-là, et je confesse, à ma grande honte, que la forte odeur de graisse et de chair brûlée qui parvint à mes narines me fit saliver. Le troisième homme fut assassiné à moins de 3 mètres de moi. Je venais de sortir de mon hôtel pour emprunter le dédale de planches recouvertes de boue qui tiennent lieu de trottoir dans cette ville sordide, lorsque j'entendis plusieurs détonations et vis un homme, à quelques pas de moi, qui chancelait comme s'il avait brusquement perdu l'équilibre. Il continua d'avancer dans ma direction avec une expression de surprise, puis tomba dans la boue et les os souillés. Il avait reçu 3 projectiles tirés par une petite arme à feu. 2 de ces projectiles l'avaient touché en pleine poitrine et le troisième au-dessous de l'œil gauche. Chose incroyable, il respirait encore lorsque je suis arrivé à lui. Machinalement, j'ai sorti mon étole de ma sacoche avec le flacon d'eau bénite qui ne me quittait pas depuis si longtemps. Puis j'ai commencé à lui administrer le sacrement de l'extrême onction. Personne dans la foule qui s'était assemblée n'éleva d'objection. Le blessé s'agita une seule fois, ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis retomba mort. La foule se dispersa avant même qu'on vînt enlever le corps. Il était d'âge moyen, les cheveux d'un blond tirant sur le roux, légèrement corpulent. Il ne portait sur lui aucun document d'identité, pas même une plaque universelle ou un persoc. Il n'y avait dans sa poche, en tout et pour tout, que 6 pièces d'argent. J'ignore pour quelle raison je restais près du corps tout le reste de la journée. Le médecin qui pratiqua l'autopsie prescrite par la loi était un homme petit et sec, plein de cynisme, qui me permit néanmoins de rester pendant qu'il œuvrait. Je suppose qu'il avait besoin de conversation. « Voilà tout ce que ça vaut !» dit-il en fendant le ventre de ce pauvre homme comme si c'était une baudruche rose, avant d'écarter les replis de peau et les muscles pour les tendre comme les rabats d'une tente. « Tout ce que vaut quoi ?» demandai-je. « La vie de cet homme !» fit le docteur en retroussant la peau du visage du cadavre comme si c'était un simple masque graisseux. « Votre vie, la mienne !» Les stries rouges et blanches des muscles bleuirent autour du trou déchiqueté de la blessure, juste au-dessus de la pommette. « Vous ne croyez pas qu'il pourrait y avoir autre chose ?» demandai-je. Il leva les yeux de son sinistre travail pour m'adresser un sourire faussement candide. « S'il y a autre chose, montrez-moi où c'est » dit-il. Il souleva le cœur du mort et sembla le soupeser un instant dans sa main. « Sur certains mondes d'urètes, dit-il, « cela aurait quelque valeur sur le marché, car les gens sont trop pauvres pour stocker des organes clonés dans des cuves nourricières, mais pas assez riches pour ne pas mourir faute d'un cœur de rechange. Ici, cependant, ce n'est qu'un viscère tout juste bon à jeter. « Il y a autre chose, nécessairement, » insistai-je. Je n'étais pas très convaincu moi-même. J'avais le souvenir des funérailles de sa sainteté le pape Urbain XV, juste après mon départ de Passem. Selon la coutume établie depuis l'époque pré-égérienne, le corps n'avait pas été embaumé. Il attendait dans le vestibule de la basilique centrale qu'on le prépare pour son cercueil en bois simple. Tout en aidant Édouard et Monseigneur Fray à revêtir de ses vêtements mortuaires le corps rigide, j'avais été frappé par la coloration de plus en plus foncée de la peau et par le relâchement des mâchoires. Haussant les épaules, le médecin légiste acheva l'autopsie. L'enquête, réduite à sa plus simple expression, ne devait jamais aboutir. Pas le moindre suspect ni le moindre mobile en vue. On envoya le signalement du mort à Keats, mais on l'enterra dès le lendemain dans un cimetière de pauvres situé à la lisière de la jungle jaune, après la plaine de boue. Port-Romance est un fouillis de structures jaunâtres en bois de vorte, assise sur un dédale d'échafaudage et de planches qui s'avance assez loin dans les plaines de boue de l'embouchure du Cans. Le fleuve atteint ici près de 2 kilomètres de large, à l'endroit où il se jette dans la baie de Toshahai, mais seuls quelques chenaux sont navigables, et encore, à condition de les draguer jour et nuit. Chaque soir, je reste longtemps éveillé dans ma chambre d'hôtel sordide, avec la fenêtre ouverte, à écouter les cognements sourds des pelles automatiques, qui résonne comme le cœur de cette affreuse cité, dont la respiration pourrait être le murmure lointain des vagues de l'océan qui se brisent sur la grève. Ce soir, en écoutant respirer la ville, je ne puis m'empêcher de lui imaginer pour visage le masque écorché de l'homme qui vient d'être assassiné. Les compagnies de transport ont un petit terminal de glisseurs en bordure de la ville pour transporter les personnes et le matériel jusqu'aux grandes plantations de l'intérieur des terres. Mais je n'ai pas les moyens de me payer le passage, ou plutôt je pourrais à la rigueur monter à bord, mais il me faudrait laisser derrière moi mes 3 malles de matériel scientifique et médical. J'avoue que je suis tout de même tenté. Ma mission chez les Bicura me paraît aujourd'hui plus absurde et plus irrationnelle que jamais. Seul mon étrange besoin de me fixer une destination précise et ma détermination pour le moins masochiste de compléter les conditions de l'exil que je me suis moi-même imposé me poussent à poursuivre ce voyage. Il y a un bateau qui part pour remonter le Kans dans 2 jours. J'ai retenu une place à bord et je dois y charger mes malles demain. C'est sans regret que je laisserai Port-Romance derrière moi. 41e jour. L'emporotique poursuit sa lente progression sur le fleuve. Pas la moindre habitation humaine en vue depuis que nous avons quitté le dock de Melton avant-hier. La jungle se presse contre les rives comme une muraille végétale. À certains endroits, même lorsque la largeur du fleuve n'excède pas une 30aine de mètres, elle forme une voûte presque continue au-dessus de nos têtes. La lumière, elle aussi, est jaune, aussi riche et épaisse que du beurre fondu, filtrée comme elle l'est par les frondaisons géantes à 80 mètres au-dessus des eaux bourbeuses du Kans. Perché sur les tôles rouillées du roof de la barge principale, qui abrite les passagers, j'écarquille les yeux pour essayer d'apercevoir mon premier arbre de Tesla. Le vieux caddie, assis non loin de moi, interrompt son patient travail avec un couteau sur un bout de bois, crache par-dessus bord à travers ses chicots et me dit en riant « Vous ne risquez pas de voir un arbre à flammes par ici, mon père. On est encore beaucoup trop bas. Leur foutue forêt, c'est pas du tout à ça que ça ressemble, croyez-moi. Faut arriver au moins jusqu'au pignon pour voir un vrai Tesla. On n'est pas encore sorti de la forêt pluviale. » C'est vrai qu'il pleut régulièrement l'après-midi. Et le mot « pluie » n'est qu'un pâle euphémisme pour désigner le déluge qui s'abat quotidiennement sur nous, voilant complètement la rive, tambourinant dans un vacarme d'enfer sur les tôles des roofs, ralentissant notre allure d'escargot au point qu'il nous semble faire du surplace. Dans ces moments-là, le fleuve se transforme en torrent presque vertical, en cataracte qu'il nous faut remonter si nous voulons continuer. L'emporotique est un ancien remorqueur à fond plat, auquel on a adjoint 5 barges qui s'accrochent à lui comme des enfants dépenaillés à la jupe de leur mère. 3 des barges à double pont transportent les ballots de marchandises destinés à être livrés ou vendus aux plantations qui bordent le fleuve. Les 2 autres offrent un simulacre d'abri aux indigènes qui veulent remonter le fleuve. J'ai l'impression cependant que certains passagers vivent à bord en permanence. Ma couchette consiste en un matelas taché posé par terre et les murs sont couverts d'étranges insectes qui ressemblent à des lézards. Après la pluie, rituellement, tout le monde se rassemble sur le pont pour voir se lever la brume du soir au-dessus des eaux du fleuve en train de se refroidir. L'air est très chaud, hyper saturé d'humidité durant la majeure partie de la journée. Le vieux caddie prétend que j'arrive trop tard pour entreprendre la traversée de la forêt pluviale et de la forêt des flammes avant la période d'activité des Tesla. Nous verrons bien. Ce soir, les brumes montent de l'eau comme si c'était les esprits de tous les morts qui reposent sous la surface trouble du fleuve. Les derniers haillons effilochés des nuages de l'après-midi se dissipent à travers les cimes des arbres, et les couleurs reviennent. Je vois passer la forêt du jaune de chrome, un safran translucide qui, lentement, cède la place à des ocres et aux terres de sienne qui précèdent le crépuscule. À bord de l'emporotique, le vieux caddie allume les lanternes et les globes qui pendent des poutrelles déformées du pont supérieur. Comme pour ne pas être en reste, la jungle assombrie se pare de la faible phosphorescence de ses matières en décomposition, tandis que les oiseaux lampires et les toiles d'araignées perlées luisent dans les ténèbres des hautes branches. La petite lune d'Hyperion n'est pas visible aujourd'hui, mais cette planète doit se déplacer dans un secteur de l'espace qui contient plus de débris que de coutume pour un monde si proche de son soleil, ce qui fait que son ciel est fréquemment illuminé par des averses de météorites. Ce soir, l'activité céleste est particulièrement intense. Du milieu du fleuve, assez large ici, nous apercevons des entrelacs de corps lumineux en mouvement qui, de leur traîne, semblent tisser une toile d'une étoile à l'autre. Ces images, au bout d'un moment, sont insupportables à la rétine et l'on baisse les yeux pour voir dans l'eau glauque le reflet atténué du phénomène. Il y a une lueur à l'horizon oriental. Le vieux caddy m'explique qu'il s'agit de la lumière fournie à quelques grosses plantations par des miroirs orbitaux. Il fait trop chaud pour dormir à l'intérieur. J'installe ma paillasse sur le toit de tôle et je contemple le spectacle céleste, tandis que les indigènes, agglutinés par famille, chantent des mélopées envoûtantes dans des dialectes que je n'ai même pas essayé d'apprendre. Je songe au Bicura, encore si loin de nous, et je me sens étreint par une étrange angoisse. Quelque part, dans les profondeurs de la forêt, un hurlement d'animal retentit qui ressemble au cri d'une femme apeurée. 60e jour. Arrivé à la plantation de Perecebo. Je ne me sens pas bien. 62e jour. Je suis malade. J'ai la fièvre, des tremblements. Hier, toute la journée, j'ai vomi une bile noire. La pluie est assourdissante. Les miroirs orbitaux éclairent toute la nuit le dessus des nuages. Les cieux sont embrasés. Je dois avoir au moins 40. Une femme s'occupe de moi. Elle me lave. Je suis trop malade pour avoir honte. Elle a les cheveux plus noirs que la plupart des autres indigènes. Elle parle peu. Ses yeux sont noirs et doux. Mon Dieu, être malade si loin de chez moi. Jour, elle m'attend. Elle m'épie. Rentre mouillée de pluie. Exprès pour me tenter. C'est ce que... Je suis... Ma peau brûle comme du... Le bout de ce sein nu sous la chemise de coton. Je sais qu'ils sont là tous à me... J'entends leur voix la nuit. Me change. Me frictionne le... Avec du poison. Ça brûle. Crois que ne me manque de rien. Mais j'entends quand la pluie s'arrête. S'arrête. Je n'ai plus de peau. Tout rouge sent le trou dans ma joue. Quand je la balle, je la recracherai anus dei quitoli specta mundi miserere nobis miserere. 65e jour. Merci, ô mon Dieu, de m'avoir délivré de la maladie. 66e jour. Me suis rasé. Et réussi à marcher jusqu'à la douche. Sempha m'a aidé à me préparer pour recevoir l'administrateur. Je m'attendais à un gros individu bougon comme ceux que j'ai pu voir par la fenêtre, travaillant au complexe de tri. Mais c'est un petit homme tranquille, à la peau noire, affecté d'un léger zézément. Il s'est montré très serviable. J'étais préoccupé par le paiement de mes soins, mais il m'a rassuré en me disant que ce serait entièrement gratuit. Mieux encore, il va mettre un guide à ma disposition pour gagner l'intérieur. Il dit que la saison est avancée, mais que si je suis en état de partir dans 10 jours, nous devrions traverser la forêt des flammes et arriver à la faille avant que les Tesla ne reprennent leur activité. Après son départ, j'ai bavardé un peu avec Sempha. Son mari est mort ici il y a 3 mois en temps local, des suites d'un accident d'exploitation. Elle-même est originaire de Port-Romance. Son mariage avec Michael l'avait arrachée à une existence sordide et elle a préféré rester ici pour s'employer à de menus travaux plutôt que de redescendre le fleuve. Je ne lui donne pas tort. Après un bon massage, j'irai me coucher. J'ai beaucoup rêvé de ma mère ces temps derniers. 10 jours. Il faut absolument que je sois prêt dans 10 jours. 75e jour. Avant de partir avec Tuc, je suis descendu jusqu'au Padi pour dire au revoir à Sempha. Elle a prononcé peu de paroles, mais j'ai lu dans ses yeux sa tristesse de me voir partir. Sans l'avoir prémédité, je l'ai béni, puis je l'ai embrassé sur le front. Tuc a souri en hochant la tête. Puis nous sommes partis en tirant derrière nous nos deux briques chargées de matériel. Le contremaître Orlandi nous a accompagnés jusqu'au bout de la route et a longtemps agité la main quand nous nous sommes éloignés sur le sentier percé à travers la végétation dorée. Domine dirigenos. 82e jour. Après avoir marché durant une semaine sur la piste, si elle peut être appelée ainsi, de la forêt fluviale dorée, après avoir péniblement grimpé le versant conduisant au plateau des Pignons, nous avons émergé ce matin sur une éminence rocheuse qui domine une partie de la jungle d'où nous venons, jusqu'au bec et jusqu'à la mer du Mitan. Le plateau devant nous est à près de 3000 mètres d'altitude, et la vue d'ici est impressionnante malgré les gros nuages noirs qui forment au-dessus de nous un tapis moutonneux qui arrive au pied des collines des Pignons, cachant une partie des méandres du fleuve jusqu'à Port-Romance. On aperçoit la mer, quelques coins de la forêt dorée qui nous a donné tant de mal, et une tache bleue à l'est qui serait, d'après Tuc, la matrice inférieure des champs de fibroplastes avoisinant Pérécebo. Nous avons poursuivi notre route jusqu'à une heure avancée de l'après-midi. Tuc a peur, visiblement, que nous ne soyons pris au piège dans la forêt des flammes lorsque les arbres de Tesla reprendront leur activité. J'ai du mal à soutenir son rythme, tirant derrière moi le brick lourdement chargé qui rechigne à avancer, récitant des prières muettes pour me détourner l'esprit de la douleur physique et des doutes qui m'assaillent. 83e jour. Avons chargé les briques et nous sommes mis en route avant l'aube. Il y a dans l'air une odeur de fumée et de cendres. Les changements dans la végétation sont spectaculaires sur le plateau. Le vort et le chalme à feuilles jaunes, jusqu'ici omniprésents, se font rares. Après avoir franchi un étage intermédiaire de petits arbres toujours verts ou toujours bleus, nous avons traversé, sur un versant de plus en plus abrupt, des forêts limitées mais denses de pinastres mutants et de tritrembles. Nous sommes enfin arrivés à l'orée de la forêt des flammes proprement dite, avec ses futaies de hauts prométhées, ses bouquets de phénix partout présents, et ses buissons circulaires de flamboyants ambrés. Par endroits, nous sommes tombés sur des fourrés impénétrables de ces abestes fourchues aux fibres blanchâtres, que Tuc décrit dans son langage imagé et irrévérencieux, comme l'épine putréfiée de géants enterrés par assez profond sur votre respect, mon père. Sûr que mon guide a un certain sens de la poésie. Notre premier Tesla, nous ne l'avons aperçu que peu avant la tombée de la nuit. Nous marchions sur des cendres depuis plus d'une heure, en nous efforçant de ne pas écraser les pousses naissantes des phénix et des pyromèches qui percent crânement à travers le sol calciné, lorsque Tuc s'est arrêté subitement en pointant l'index. Le Tesla, encore à 500 mètres devant nous, devait faire au moins 100 mètres de haut, dépassant d'un bon tiers le Prométhée le plus élevé des environs. Son faîte en forme de bulbe, qui abrite sa poche accumulatrice, était impressionnant. Les branches radiales de sa couronne étaient chargées de douzaines de lianes nimbiques, dont l'éclat argenté étincelait sur le fond du ciel vert et lapis. Tout cela évoquait pour moi quelques mosquées de la Nouvelle Mecque aux formes élégantes et racées, irrévérencieusement parées de guirlandes de métal.
« Il faut se tirer de là vite avec nos briques !»
a grogné Tuc en insistant pour que nous revêtions sans plus attendre notre tenue spécialement conçue pour la forêt des flammes. Tout le reste de la journée, nous avons arpenté la cendre avec nos masques à osmose et nos lourds brodequins à semelles isolantes, transpirant sous plusieurs couches de tissu gamma épais comme du cuir. Les deux briques étaient de plus en plus nerveux, dressant leurs longues oreilles au moindre bruit. Même à travers mon masque, cela sentait l'ozone, ce qui m'a rappelé le train électrique avec lequel je jouais, enfant, le dimanche après-midi à Villefranche-sur-Saône. Nous avons établi notre camp pour la nuit aussi près que possible d'un fourré d'abeste. Tuc m'a montré comment disposer le cercle de paravolte autour de nous, mais il n'a pas cessé, en assemblant les tubes, de grommeler des avertissements sinistres et de lever la tête vers le ciel à l'affût du moindre nuage. J'ai bien l'intention de passer une bonne nuit malgré tout. 84e jour. 4 heures du matin. Sainte Mère du Christ. Cela fait 3 heures que nous sommes plongés dans un cauchemar de fin du monde. Les explosions ont débuté peu après minuit. Ce n'étaient que des craquements d'éclairs au début. Et Tuc et moi avons eu le tort de passer la tête sous le rabat de la tente pour admirer le feu d'artifice. J'ai connu les orages de mousson du mois de Mathieu sur Passem. Aussi la première heure de fantasmagorie m'a-t-elle paru relativement familière. Seule la vue des lointains Tesla comme foyer invariable des formidables décharges électriques était véritablement impressionnante. Mais bientôt, les géants de la forêt se sont mis à flamboyer et à cracher leur énergie accumulée. Puis, juste au moment où je replongeais dans le sommeil malgré le tintamarre ininterrompu, l'apocalypse s'est déchaînée. Au moins une centaine d'arcs électriques durent se former pendant les 10 premières secondes de spasme énergétique des Tesla. Un Prométhée situé à moins d'une trentaine de mètres de nous explosa, projetant des brandons du haut de ses 50 mètres sur le sol de la forêt. Les tubes des paravoltes rougeoyaient et sifflaient en déviant l'un après l'autre les arcs de mort grésillants et bleutés qui harcelaient notre petit campement. Tuc me cria quelque chose, mais aucun son humain ne pouvait dominer le déchaînement des flammes du ciel. Un bouquet de phénix s'embrasa soudain à quelques pas des briques entravées, et l'un de ces animaux terrifiés, malgré le capuchon qui lui cachait les yeux, rompit son entrave et se précipita à travers le cercle de paravoltes. Aussitôt, une demi-douzaine d'éclairs issus du Tesla le plus proche s'abattirent sur l'infortuné animal. L'espace d'une folle seconde, j'aurais juré voir le squelette de l'animal briller d'une phosphorescence bleutée à travers ses chairs en ébullition. Puis il fit un bond spasmodique dans les airs et cessa tout simplement d'exister. Il y a 3 heures que nous contemplons ce spectacle de fin du monde. 2 des tubes du paravolte ont cédé, mais les 8 autres continuent de fonctionner. Tuc et moi sommes pelotonnés au cœur brûlant de notre tente, et nos masques à osmose filtrent suffisamment d'oxygène dans l'air enfumé pour nous permettre de respirer. C'est uniquement grâce à la prévoyance de Tuc, qui a planté la tente loin de toute végétation qui aurait pu servir de cible au Tesla, mais aussi à proximité des abestes protecteurs, que nous avons pu survivre jusqu'ici, à l'abri, naturellement, du cercle de tubes en alliage renforcé qui nous sépare de l'éternité.
« On dirait qu'ils tiennent le coup !» ai-je crié à Tuc, ma voix couvrant à peine les craquements et les sifflements de la tempête.
« Ils sont faits pour tenir 1 heure, 2 au maximum !»
a grogné mon guide.
« Ils peuvent claquer d'un moment à l'autre et ce sera fini pour nous !»
J'ai hoché la tête en aspirant un peu d'eau tiède à travers l'iris de mon masque à osmose. Si je ne meurs pas cette nuit, je rendrai toujours grâce à Dieu de m'avoir permis, dans son infinie générosité, d'assister à ce spectacle. 87e jour. Tuc et moi avons émergé seulement hier à midi de la partie nord-est encore rougeoyante de la forêt des flammes. Nous nous sommes empressés de dresser notre tente au bord d'un frais ruisseau, et nous avons dormi 18 heures d'affilée, rattrapant 3 nuits blanches et 2 jours de marche à garde au milieu d'un paysage cauchemardesque de cendres et de flammes. Partout où nous tournions les yeux, en nous dirigeant vers la crête qui marque la limite de la forêt, nous pouvions voir les cosses et les cônes s'ouvrir à une nouvelle vie en remplacement des espèces à feu détruites dans la conflagration des 2 nuits précédentes. 5 de nos tubes paravoltes fonctionnaient encore, mais ni Tuc ni moi ne tenions à les mettre à l'épreuve 1 nuit de plus. Notre brick survivant s'était écroulé, mort, à l'instant même où nous lui avions ôté le lourd chargement qu'il portait sur le dos. Je me suis levé ce matin à l'aube au son de l'eau courante. J'ai remonté le ruisseau en direction du nord-est sur quelques centaines de mètres, puis je l'ai subitement perdu de vue tandis que le bruit du torrent s'intensifiait. La faille. J'avais presque oublié notre destination. Un peu plus tard, dans la matinée, titubant à travers la brume, sautant d'un galet mouillé à l'autre au travers du cours d'eau un peu plus large ici, j'ai fini par m'agripper tant bien que mal à un gros rocher en surplomb d'où la vue plonge sur une cataracte assourdissante qui doit bien représenter 3 000 mètres de chute verticale à travers la brume, jusqu'au bloc rocheux et au fleuve qui se trouve en bas. La faille n'a pas été creusée à travers le plateau par l'érosion, comme le légendaire Grand Canyon de l'ancienne Terre ou la fissure continentale d'Hébron. Malgré l'activité de ces océans et de ces continents, qui rappellent ceux de la Terre, Hyperion est un monde parfaitement mort au plan tectonique. Il fait plutôt penser à Mars, Lusus ou Armagaste par son absence totale de dérive continentale. Comme Mars et Lusus, Hyperion a été marqué par ses périodes glaciaires, bien que leur périodicité, ici, soit portée à 37 millions d'années par la très longue éclipse de la naine binaire actuellement invisible. Le Persoc compare la faille au canyon préterraformé de Valles Marineris sur Mars, résultant, comme elle, de l'affaiblissement de la croûte consécutif aux différentes périodes de glaciation et de dégel qui se sont succédées au cours des millénaires. À cela, il faut ajouter, naturellement, l'action des cours d'eau souterrains comme le Kans. L'effondrement massif ainsi causé forme une longue cicatrice qui creuse tout le secteur montagneux du continent d'Aquila. Tuk m'a rejoint au bord de la faille. J'étais nu, en train d'essayer de débarrasser mes vêtements de voyage et ma soutane de l'odeur de cendres dont ils sont imprégnés. Aspergeant d'eau fraîche ma peau blafarde, j'éclatais de rire en écoutant l'écho des cris de Tuk renvoyés par la paroi nord, à 700 mètres de là. En raison de la configuration géologique du terrain, nous avions pu nous avancer sur une roche en saillie d'où la paroi sud nous était totalement invisible. Quoique terriblement dangereux, nous estimions que le surplomb sur lequel nous batifolions comme des enfants après l'école, s'il avait défié des millions d'années, pouvait bien supporter notre poids quelques heures. Tuk m'avoua alors qu'il n'avait jamais traversé, précédemment, la forêt des flammes sur toute son étendue. Et il ne connaissait personne qui eût réussi cet exploit en cette saison. Il m'annonça aussi que, maintenant que les Tesla étaient entrés dans leur période d'activité, il lui faudrait attendre au moins 3 mois pour pouvoir repasser de l'autre côté. Mais il ne semblait pas regretter de se trouver ici, et j'étais, quant à moi, très heureux de sa compagnie. Cet après-midi, nous avons déplacé tout notre équipement en plusieurs voyages. Le nouveau camp que nous avons établi se trouve au bord de l'eau, à une centaine de mètres du surplomb. Nous avons également commencé à empiler les caisses de matériel scientifique en mousse lovée afin d'en faire le tri demain. Le temps s'est rafraîchi ce soir. Après le dîner, juste avant le coucher du soleil, j'ai mis ma veste isotherme et je me suis avancé tout seul sur un rocher en saillie situé au sud-ouest de l'endroit où j'ai aperçu la faille pour la première fois. De cet observatoire, la vue est inoubliable. Une fine brume monte de la cataracte invisible qui se jette dans la lointaine rivière au fond de l'abîme. Les gouttelettes en suspension captent les rayons du couchant, formant des arcs-en-ciel et des bulles mauves irisées que je ne me suis pas lassé de voir naître, s'élever vers la voûte céleste de plus en plus sombre et mourir. À mesure que l'air froid s'engouffre dans les crevasses et les grottes du plateau, l'air chaud est aspiré des profondeurs et charrie tout un tourbillon de feuilles mortes et de brindilles. La faille émet alors un hurlement à l'échelle du continent, évoquant les cris mêlés de hordes de géants de pierre, de flûtes de bambou démesurées ou d'orgues de la taille d'une cathédrale. Le tout formant un concerto dans une gamme qui va du plus mince flûtis à la basse la plus grave. J'ai médité longtemps sur les sifflements de la roche, sur les borborygmes des profondes cavernes, sur les courants d'air qui parcourent les crevasses de la roche figée et sur l'étrange ressemblance avec la voix humaine que les harmoniques de toutes sortes peuvent susciter. Mais j'ai fini par abandonner toutes ces spéculations pour me livrer, simplement, au plaisir d'écouter le grandiose hymne d'adieu au soleil entonné par la faille. J'ai regagné la tente et son cercle de lanterne bioluminescente au moment où la première pétarade de météores a traversé le ciel au-dessus de nos têtes, accompagnée de détonations lointaines dont l'écho se répercutait à l'horizon du sud-ouest comme un tir d'artillerie appartenant à quelque guerre oubliée de l'ancienne terre pré-égyrienne. Sous la tente, j'ai essayé d'interroger mon père Soc sur les grandes ondes, mais je n'ai rien obtenu d'autre que de la friture. Je suppose que même si les satcoms primitifs qui desservent les plantations de fibroplastes essayaient d'émettre dans ces régions, les montagnes et surtout les Tesla en période d'activité ne laisseraient passer que les plus concentrés des faisceaux laser ou mégatrans. Sur Passem, au monastère, peu d'entre nous étaient munis d'un père Soc, mais l'infosphère était toujours accessible si nous avions besoin de nous y connecter. Ici, nous n'avons guère le choix. J'ai écouté les dernières notes du vent de l'abîme, puis j'ai vu les cieux s'assombrir et s'embraser simultanément. Les ronflements de Tuc, endormi sur sa natte devant la tente, m'ont fait sourire et, je me suis dit, si c'est cela l'exil, va pour l'exil. 88e jour. Tuc est mort. On l'a assassiné. Je l'ai trouvé en sortant de la tente à la première lueur de l'aube. Il dormait dehors, à moins de 4 mètres de moi. Il disait qu'il préférait coucher à la belle étoile. On lui a tranché la gorge pendant son sommeil. Je n'ai pas entendu le moindre cri. Mais j'ai fait un rêve. J'avais la fièvre et Semfa était en train de s'occuper de moi. Ses mains froides me palpaient le cou et la poitrine. Elle touchait le crucifix que je porte sur moi depuis mon enfance. Je suis resté là un bon moment à regarder le cadavre de Tuc et le cercle noir que son sang avait formé sur le sol indifférent d'Hyperion. J'ai frissonné à la pensée que mon rêve avait pu être plus qu'un songe et que de vraies mains s'étaient posées sur moi pendant la nuit. J'avoue que j'ai réagi plutôt comme un vieil imbécile terrorisé que comme un prêtre. Je lui ai certes administré l'extrême onction, mais saisi de panique, j'ai abandonné la pauvre dépouille mortelle de mon guide pour me mettre fébrilement à la recherche d'une arme parmi le matériel de l'expédition. J'ai sorti la machette que nous avions utilisée dans la forêt pluviale et le maser basse tension destiné à la chasse au petit gibier. J'ignore si j'aurais été capable d'utiliser une arme contre un être humain, même pour défendre ma propre existence. Mais dans mon affolement, je courus avec la machette, le maser et les jumelles à amplification électronique jusqu'à un gros rocher qui dominait la faille et je balayai la région à la recherche des meurtriers de Tuc. Mais je ne décelai aucun mouvement, à l'exception des minuscules créatures arboricoles et des insectes que nous avions vus les jours précédents. La forêt elle-même semblait anormalement sombre et dense. La faille formait des centaines de cavernes, corniches et crevasses, qui auraient pu abriter des hordes de sauvages. Une armée entière aurait pu se cacher dans les brumes du nord-est, continuellement présente. Au bout de 30 minutes de recherche vaine et de lâche panique, je retournai au camp et pris les dispositions nécessaires pour offrir une sépulture décente à mon guide. Il me fallut 2 bonnes heures pour creuser un trou suffisant dans le sol rocheux du plateau. Lorsque tout fut fini, après avoir récité la prière des morts, je ne trouvai rien de très personnel à ajouter sur le petit homme fruste et comique qui m'avait fidèlement servi. Veillez sur lui, Seigneur, et facilitez-lui le passage. Amen. Murmurai-je finalement, écœuré de ma propre hypocrisie et convaincu, au fond de mon cœur, que je ne prononçais ces mots que pour moi-même. Ce soir-là, j'ai déplacé le camp de 500 mètres au nord. Ma tente se dresse à présent au milieu d'un espace découvert, à 10 mètres de l'endroit où je suis tapis, adossé à la roche, ma chemise de nuit retroussée, la machette et le maser à portée de la main. Après avoir enseveli Tuc, j'ai passé en revue l'équipement et les caisses. Il me semble que rien ne manque, si ce n'est le paravolte, dont tous les tubes restants ont disparu. Je me suis demandé si quelqu'un ne nous avait pas suivis à travers la forêt des flammes dans l'idée de se débarrasser de Tuc et de me bloquer ici. Mais je ne vois pas ce qui aurait pu motiver un acte aussi abominable. Si quelqu'un des plantations aurait voulu nous tuer, il aurait pu le faire dans la forêt pluviale ou, mieux encore, du point de vue d'un assassin, pendant notre sommeil au cœur de la forêt des flammes, là où personne ne pourrait s'étonner de retrouver 2 corps carbonisés. Il ne restait plus par conséquent que les bicuras, les primitifs dont je m'étais entiché. J'envisageais de rebrousser chemin à travers la forêt des flammes sans paravolte, mais j'abandonnais rapidement cette idée. Une mort certaine m'attendait si je partais, contre une mort probable si je restais. Encore 3 mois avant la prochaine période d'inactivité des Tesla. 120 jours locaux, à raison de 26 heures par jour. Une éternité. Christ d'amour et de miséricorde, pourquoi ces choses-là m'arrivent-elles? Pourquoi ai-je été épargné hier si c'est pour être sacrifié cette nuit, ou bien la prochaine? Tapis dans mon creux de rocher, je vois le ciel s'assombrir et j'écoute le sinistre gémissement du vent qui monte de la faille. Je prie tandis que le ciel s'illumine du passage des météores à la traîne rouge comme le sang. Ou plutôt, disons que je m'adresse des paroles rassurantes.